Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Cube Radio.
L'actualité nous a livré toutes sortes d'événements qui sont liés avec ce qu'on pourrait appeler une culture du silence. Dans les derniers mois, cette année, disons, c'était assez important. Merci. Hein? Les pensionnats autochtones, par exemple, l'omerta de silence, les abus commis par l'Église au fil de décennies, Hockey Canada, maintenant on en parle un peu plus tôt à l'émission, Hockey Canada avec sa culture du silence à l'intérieur, des crimes sexuels qui ont été camouflés, cachés, payés à grands frais pendant des années, la fonderie de Rouen, hein, la fonderie Horn qui, encore en ce moment, se bat pour ne pas divulguer certains documents, on l'apprenait ce matin entre autres dans la presse, Philip Bond qui était connu, semble-t-il, dans l'industrie pour avoir commis présumément, bien sûr, des infractions sexuelles lui aussi, ça avait été caché ou du moins réduit au silence par plein de gens qu'il côtoyait. Bref, la culture du silence, un phénomène qui revient et qui a été le point d'interrogation de Francky Bernèche, qui est professeur de psychologie au Cégep de Saint-Jean sur Richelieu, qui signait une réflexion là-dessus dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal. Bonjour, Monsieur Bernèche.
Bonjour, monsieur.
Tout d'abord, monsieur, qu'est-ce qui vous a amené, là, on comprend que c'est beaucoup dans l'actualité, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur la culture du silence?
Ben, comme vous le dites, c'est l'actualité. Donc, l'actualité, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis, évidemment, en psychologie, on s'intéresse à ça, parce qu'on est dans une forme de manipulation de l'information, et ça, c'est très psychologique. Et vous avez nommé quatre événements importants, mais on pourrait en nommer beaucoup plus. Hein? En psychologie, ça fait longtemps qu'on s'intéresse, entre autres, à la culture du silence dans les familles. Tu sais, dans les familles, souvent, il y a beaucoup de non-dits, ce qu'on appelle des secrets de famille. Hein? C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Dans le milieu du travail aussi, il y a aussi beaucoup de culture du silence. Tu sais, il y a des gens qui, parfois, peuvent être un petit peu toxiques, là. Et ces gens-là ne sont pas toujours délogés ou déplacés. On ne déplace pas toujours les bonnes personnes dans le lieu du travail. C'est ça. Donc, c'est un phénomène qu'on voit dans plusieurs, contextes là, de la vie.
Cette culture du silence-là, au niveau psychologique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que des gens en position d'autorité ou des gens qui voient autour d'eux des événements qui sont répréhensibles sont poussés à fermer les yeux, ou plutôt fermer la bouche par rapport à ça?
Ben, en fin de compte, c'est relativement normal, parce que ce qu'on voit, c'est que il faut qu'il y ait un bénéfice. Hein, je ne vais pas perdre une réalité si j'en ai pas un bénéfice quelconque. Et même, tu sais, d'une façon un petit peu plus psychologique, mais on peut dire qu'on est conscient selon nos intérêts. Donc, compte tenu de ce qui nous motive dans la vie, compte tenu de ce qui m'intéresse, ben, je vous garantis moi, que notre conscience prend souvent des coins ronds, prend une tournure particulière. Hein, dans le texte, je parle des fumeurs. T'sais, souvent, les fumeurs, évidemment, ne sont pas bien avec ça. Mais quand on leur donne des faits très concrets, ou on pourrait même parler de la vaccination, hein, des anti-vaccins, quand on n'est pas bien avec une situation, on va avoir tendance surtout à camoufler les faits pour nous donner raison dans notre position. Donc, c'est quelque chose qui est normal. On a tous tendance à faire ça.
Un biais de confirmation, si on veut.
Exactement. Vous avez raison.
Oui. Et vous parlez de la motivation. Qu'est-ce qui motive une culture du silence? Et si vous pouviez, M. Bernet, juste vous rapprocher un tout petit peu du combiné. Je manque quelques mots de ce que vous me dites. Simplement, la motivation, dans ces cas-ci, là, quand on parle de grandes industries, de grandes organisations comme Hockey Canada, par exemple, la motivation principale, c'est l'argent.
Ben oui, effectivement, la motivation, l'argent, c'est un moteur important et les gens ont avantage. Là, si on regarde, par exemple, la culture du silence qu'il y a eu au niveau des Autochtones, ben, tu sais, il y avait une motivation à garder plus de monde dans le mouvement du clergé, dans le mouvement catholique. Monsieur Bond et Hockey Canada, évidemment, la motivation, c'est de vendre leurs produits, hein, parce qu'on ne va pas ternir l'image là, de ce qu'on vend. Et la fonderie Horn à Rwanda, ben, évidemment, l'objectif, c'est pas d'effrayer là, pour la décontamination. Donc, c'est sûr que la motivation, elle est liée à l'argent. Mais, à quelque part, il faudrait peut-être plus s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont prioriser l'argent sur les valeurs humaines? Qu'est-ce qui fait que moi, mon choix, ça va être d'abord et avant tout l'argent, au détriment de la santé des gens, au détriment, on pourrait dire, de l'intégrité physique des jeunes filles, là, dans le cas de Hockey Canada. Alors ça, à mon avis, c'est la vraie question qu'on doit se poser.
La vraie question
pourquoi
qu'on doit se poser.
Si motivé à l'argent.
Oui, c'est une question importante à se poser, mais du moment où on trouve qu'il y a un rapport, je pense que sans surprise, on peut dire qu'on a un rapport toxique avec l'argent, avec l'or, là, tu sais, je vais remonter plus loin que ça. Je pense que l'appât du gain, c'est un phénomène humain universel. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre l'appât du gain rendu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment inverser une tendance millénaire?
C'est une bonne question. C'est surtout un gros boulot, un gros défi. Mais je vous dirais, tu sais, faut se poser la question, pourquoi quelqu'un priorise autant l'argent? Pourquoi même les individus priorisent l'argent? Ben, l'argent, c'est tout sauf de l'argent. L'argent, c'est d'abord et avant tout affectif. Il y a beaucoup de gens pour qui le fait d'avoir de l'argent, c'est ce qui leur donne la valeur profonde. Au niveau de l'estime d'eux-mêmes, au niveau de leur confiance, etc. Donc, si je réponds à votre question, comment on pourrait un peu désamorcer cet engouement-là à l'argent? Ben, c'est en construisant mieux nos enfants. C'est en s'occupant mieux de nos enfants. C'est en leur donnant de meilleures valeurs. C'est en leur donnant une estime d'eux-mêmes très forte qui va faire en sorte qu'à l'âge adulte, ils n'auront pas besoin de s'accrocher à l'argent pour se trouver une valeur personnelle. Donc, c'est dans l'éducation, à mon avis.
Vous êtes vous-même professeur, c'est donc logique que l'éducation soit le moyen privilégié dans votre cas pour lutter contre tout ça, sauf que pour améliorer l'éducation, ça va nous prendre bien de l'argent. Et là, on s'en sort pas nécessairement directement. Francky Bernèche, professeur de psychologie au Cégep Saint-Jean sur Richelieu. J'invite les gens à aller lire votre texte dans la section Faites la différence. C'est une bonne réflexion, des bonnes pistes, comme vous le dites, surtout sur le rapport qu'on accorde à l'argent. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci à vous. Au revoir.
C'est qui conclut notre émission déjà pour aujourd'hui. Merci à mes fidèles collègues, Jean-François Roy qui est à la réalisation et on a Charlotte qui est à la recherche. Je vous remercie. On se reparle demain.